L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette Afrique dans tous ses états, nous recevons avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Kylène.
Nous recevons donc Mona Azam. Bonjour Mona Azam.
Bonjour. Bonjour.
Alors, en régie aujourd'hui, c'est Yann. Alors, comme vous le savez, auditeurs, auditrices, nos invités ont un lien avec le continent africain parce qu'ils sont eux-mêmes burkinabés, sénégalais, guinéens ou encore camerounais ou encore d'autres origines africaines. Ou bien ce sont des invités qui ont un attachement profond à ce continent malgré leur naissance hors de l'Afrique. Mona Azam, vous êtes dans ce studio de FM+, car votre lien avec le continent africain commence dès la naissance et continue à travers vos publications. C'est ainsi que nous parlerons notamment de votre avant-dernier livre, Amine, un roman publié aux éditions La Trace, et nous évoquerons probablement vos autres publications passées et peut-être celles qui vont arriver bientôt, qui sont juste publiées, dont on n'avait pas connaissance jusqu'alors.
Oui, tout à fait.
Alors Mona Azam, qui êtes-vous? On commence toujours par une petite enquête, hein, ici avec Marie-Claude.
Alors je sais que Marie-Claude est psychologue, donc,
mais je suis surtout africaine de cœur. Mona.
Voilà, donc qui suis-je? Je suis africaine.
Hein, ah ben voilà, tout. Deux africaines voilà, autour de cette table.
Je suis née sur cette terre argileuse, rouge, aux senteurs particulières. J'ai grandi à l'ombre des baobabs. J'aime le soleil comme les margouillas. Je porte en moi ce continent qui est un continent de mille et une richesses et un continent de traditions, de griots, de scribes, de contes et de littérature. Ces premiers mots, les mots primitifs d'une terre ancestrale, je suis avant tout africaine, mais je suis aussi citoyenne du monde.
Bienvenue au club.
Voilà, ma patrie, ce sont les mots, voilà. Essentiellement. Les mots qui disent l'autre, les mots qui veulent transmettre aux autres ce vécu riche que j'ai eu la chance de vivre grâce à mes parents qui étaient déjà en Afrique. Ma mère est née au Sénégal, ma grand-mère aussi, donc c'est voilà, je suis africaine de plusieurs générations et je voudrais surtout insister sur le fait que l'Afrique, ce n'est pas seulement un continent, c'est la terre de l'essentiel et c'est la terre à laquelle on retourne toujours, et physiquement et géographiquement, mais aussi par le biais des mots. On n'a pas fini de dire l'Afrique et de la réinventer tous les jours.
Oui, tout à fait. Puis même si on en croit les scientifiques, avec toutes les recherches même actualisées, ce serait notre continent originel, d'où nous partirions tous de là. Hein, nous aurions été tous sur ce continent-là, nous aurions été noirs. Et je compléterai en disant que les trois grandes religions sont nées aussi pratiquement sur ce territoire-là. Et c'est presque, bon, même si l'islam a été après un peu, mais quand même c'est un continent ou un pré-continent à partir de l'Égypte, etc., qui a vraiment, vraiment été aussi à l'origine de la diffusion de nos grandes cultures religieuses aussi en Europe.
Voilà. Tout à fait.
Et puis que je suis contente que Mona, qui est toute africaine elle soit, a fini par arriver à Montpellier, puisque je suis aussi montpelliéraine, même si je suis citoyenne du monde, et que nous savons bien que Montpellier est une terre d'accueil, et qu'on voit bien voilà, que tout le monde, tous les continents arrivent ici aussi.
Tout à fait, je suis montpelliéraine depuis 20 ans. Voilà. J'ai une passion pour cette ville, où j'ai posé mes valises, puisque je suis nomade dans l'âme. Mais la particularité de Montpellier, c'est que c'est une ville ouverte sur l'autre et une ville qui accueille les autres dans toutes leurs différences et avec toute la richesse culturelle que ça implique.
Tout à fait.
Voilà.
D'où l'Afrique dans tous ses états.
Sur FM+.
Sur FM+, Montpellier. Une fois par semaine.
Alors, peut-être on pourrait préciser l'Afrique continent. Oui, mais l'Afrique dans quel pays, vous, précisément, Mona Azam?
Alors, la Côte d'Ivoire, essentiellement. Je suis née dans un village de la Brousse, où je crois que j'étais, avec mes parents, on était ce qu'on appelle les seuls blancs, Hein, on nous appelait tout babou, mais ce n'était pas non plus péjoratif. Non, on était accueillis comme des enfants de la même terre, puisqu'on est nés sur place. Puis le Sénégal, de par les origines de ma mère, et le Mali, bien sûr, où j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'enseignante de français pour étrangers. Donc, le Cameroun aussi, l'Afrique du Nord, hein, puisque l'Afrique du Nord aussi fait partie du continent, le Maroc, la Tunisie. Voilà, j'ai un lien particulier avec l'Afrique, c'est un lien charnel, c'est un lien viscéral et c'est impressionnant parce que chaque fois que j'écris, que ce soit de la poésie, des romans, l'Afrique se rappelle à moi. C'est ainsi, on n'y peut rien.
Voilà, et ce que je tiens à souligner justement, c'est ce côté, puisque moi je n'y suis pas née, mais quand j'y suis arrivée, je me suis sentie chez moi, dès que j'ai touché le sol, ce sol rouge dont vous parlez, la latérite, donc. Et c'est vrai que ça ne peut pas être autrement. Ou c'est charnel, ou ça n'est pas. L'Afrique, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ce que j'aime beaucoup. Alors, où effectivement, on y adhère, on s'y sent bien, ou alors on tombe malade très vite, ou de toute façon, on vit enfermé dans ces bunkers, dans ces climatisations, ces 4x4, etc. Ça fait rire mon âme, c'est de quoi je parle.
Tout à fait.
Mais alors, quand vous a-t-il fallu quitter la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali ?
Mais pour des raisons d'études, hein, universitaires, puisque à un moment... il faut bien poursuivre ses études et donc j'ai quitté l'Afrique, mais sans vraiment la quitter, puisque j'y retournais souvent et parce que finalement j'ai des liens avec des personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et ce sont des relations essentielles qui ne sont pas basées sur l'obligation sociale. C'est un élan du cœur. Et franchement, quoi qu'il arrive dans ma vie, il y a toujours un moment où je me retourne vers l'Afrique par besoin. Et c'est impressionnant parce que cela me rassure. Et cela m'apporte une sérénité que je ne retrouve pas ailleurs.
Ça veut dire que concrètement, vous y retournez régulièrement?
Tout à fait.
Dans ces pays que nous venons de citer?
Ne serait-ce que par l'écriture.
Voilà, donc voilà.
C'est déjà un moyen de garder le lien et de ne pas le briser, bien sûr.
Voilà, et puis Mona parlait de sincérité et je dirais aussi de fidélité. Parce que quand vous êtes amis là-bas, si justement vous avez su dépasser ces histoires noir-blanc, parce que tout ce qu'on nous raconte, c'est bête comme tout, parce que quand vous avez des bons amis, pour rigoler, ils vont vous dire « toi le blanc » et vous allez répondre « toi le noir », enfin, ou l'africain. Enfin, vraiment, c'est pas... et c'est de la rigolade, c'est de l'humour, et c'est un humour qui est vraiment très affectueux. Et c'est vrai que j'ai toujours été étonnée de la fidélité de la relation, quand on a su la nouer avec eux, de la fidélité d'une relation qui est bien tout autre qu'une relation économique, intéressée, etc. Ça n'a rien à voir, c'est tout avec le cœur.
Mon surnom, c'était Toubabou mal blanchi. Et je n'y vois aucune pointe de racisme. D'ailleurs, une discussion que j'avais avec une amie ivoirienne il n'y a pas longtemps, et on parlait justement de ce faux problème qui aujourd'hui fait émerge en France de partout, noir, blanc, c'est raciste. Elle me dit, mais je suis noire, mais combien de temps tu passes au soleil pour devenir comme moi? J'ai dit, des heures et des heures. Elle me dit, et alors, ça fait de toi une blanche ou une noire? J'ai dit, ça fait de moi une métisse. Elle me dit, mais on est tous métisses finalement.
Tout à fait.
Parce que la colonisation a laissé quand même aussi des empreintes. Alors, est-ce qu'il faut s'enfermer dans cette notion de colonisation et essayer de se donner aujourd'hui bonne conscience en disant « faut plus dire noir » Le fait de ne pas dire noir, ça ne change pas au fait que la peau est noire. Quoi. Mais qu'importe la couleur de peau, finalement, il y a deux individus ou trois individus qui partagent des valeurs communes et c'est ça l'essentiel.
Tout à fait.
Alors, vous avez dit vous vous intéressez à la littérature professionnellement, mais aussi par affect. Est-ce que vous connaissez les langues, certaines langues de ces pays?
Alors, le Tagouana, bien sûr, et le Wolof, essentiellement. Voilà.
Le Wolof n'est pas une langue facile.
Non, mais quand on a baigné, c'était la langue des secrets. En fait, ma mère échangeait avec ses sœurs en Wolof quand elle ne voulait pas qu'on sache de quoi elle parlait. Mais quand on est petit, on arrive tout de suite à capter les clés du langage. Et finalement, elle a bien compris quelques années plus tard qu'il n'y avait pas de secret, puisque on comprenait tous la langue.
Oui, vous baignez dans un bain, un marigot. Voilà,
moi j'ai fait ma scolarité dans une école. À l'époque, il n'y avait que les écoles, les missions catholiques, comme on les appelait, françaises, et où on était mélangés, blancs, noirs. Il n'y avait aucune différence. Mmh. On suivait le même apprentissage, ce qui est un peu regrettable parce que quand on est ivoirien, apprendre nos ancêtres les Gaulois, c'est un peu passer à côté de la réalité des choses, parce que l'Afrique, elle a son histoire, elle a ses propres événements historiques, sa propre culture, ses grands écrivains. C'est très bien, Victor Hugo, c'est très beau, c'est passionnant, mais que faisons-nous des écrivains africains qui ne sont pas au programme? Et ça, c'était triste. Mais ça, je l'ai compris des années plus tard.
Des années plus tard, quand vous êtes devenue à votre tour enseignante.
Tout à fait.
Vous avez enseigné dans certains pays francophones d'Afrique ou...
Oui, au Liban aussi, à Beyrouth. 10 ans à Beyrouth, en temps de guerre, une autre expérience. Et aujourd'hui, je suis toujours enseignante de littérature à Montpellier, à Marcel Pagnol. Et je sensibilise mes élèves... à cette littérature venue d'ailleurs, parce que je pense que c'est important que l'on puisse diversifier les textes qu'on travaille en classe et ouvrir d'autres horizons à nos jeunes.
D'autant que la littérature africaine est d'une grande richesse, comme toutes les littératures francophones, qui nous restituent une langue vraiment que nous avons oubliée, que nous avons tellement actualisée, voulu moderniser, que voilà. Et moi, ça me rappelle le journaliste Thibaut Buis qu'on avait reçu, qui était complètement, qui avait fait la Sorbonne et compagnie, et qui le premier article qu'il a fait au Burkina Faso, et on le lui a rendu corrigé avec presque la moitié en rouge. Il était complètement. Et il dit qu'en fait, il s'était rendu compte que effectivement, là-bas, il n'y avait aucune transgression par rapport à rien. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Quoi.
Il suffit de lire le Goncourt de Mohamed Sarr. C'est un pur bijou de la littérature et du vocabulaire, du style, de la phrase, du respect de cette langue qu'on perd en France.
Oui. Après, on peut citer Marine Diaye, Fatou Diop, et puis les Camerounais,
Eugène Ebodé.
Eugène Ebodé, bien sûr, aussi.
Pour rester dans les contemporains, vous parliez tout à l'heure, avant que nous commencions, de Gaël Faye, Petit Pays.
Oui.
J'ai compris aussi qu'ils avaient rencontré vos étudiants, vos lycéens.
Oui.
Comment s'est passée cette rencontre
Admirable, magnifique. C'est quelqu'un de très humain qui sait parler aux jeunes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin qu'on leur parle et qu'on les sorte un peu de ce cliché... où on prétend toujours que les jeunes n'ont pas de culture, qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne sont pas intéressés. Il suffit de vraiment tendre la main vers un jeune et de le poser sur le chemin. Et tout est possible. Les jeunes n'attendent que ça, en fait. Et je fais partie de ces personnes qui restent persuadées qu'il n'y a que la culture qui fera avancer cette jeunesse, qui n'est pas du tout indifférente, qui a ses propres préoccupations. Et la littérature reste aujourd'hui un repère qu'il nous faut vraiment mettre à portée de la jeunesse.
C'est à nous d'apprendre aussi les moyens, de nous donner les moyens, de nous actualiser et puis de savoir aussi capturer l'attention de notre jeunesse en pensant qu'elle est aussi capable d'entendre et de comprendre.
Bien sûr.
C'est bien d'avoir des enseignants comme ça.
C'est formidable. Alors, FM Plus organise des soirées, des après-midi aux Gazettes Café. Nous en avons déjà produit 2. Et le dernier concernait la place des journalistes d'investigation en Afrique de l'Ouest. Est-ce que la politique, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina notamment, et dans d'autres pays, on pourrait parler du Mali bien sûr, et peut-être encore d'autres, vous émeut, vous intéresse, ou est-ce que vous vous dites, bon voilà, c'est vraiment une affaire de politiciens qui est très loin de vous?
Je ne peux pas me couper de l'actualité. Il s'agit d'un continent qui m'est cher. Je ne suis pas forcément politicienne et ce n'est pas vraiment un domaine qui m'intéresse. Nous savons tous que l'un des plus grands fléaux qui touche l'Afrique reste la corruption. Il existe, heureusement, je dirais, aujourd'hui, quelques voix qui s'élèvent un peu partout, hein, en Afrique de l'Ouest, et qui essaye de changer le monde. Elle s'élève aussi partout en Afrique, avec une génération ambitieuse qui a compris que la démocratie, ce n'était pas quelque chose qu'on agitait à coups de baguette magique, mais qu'elle se construisait et que cela passait justement par l'instruction, par la culture. Et sans me mêler de politique, j'ai la chance de faire partie d'un groupe collectif autour de Jeanne et Baudet, hein, qui est investi activement pour l'Afrique, justement, et qui a pour vocation, justement, de construire une autre Afrique, une Afrique, je dirais, avec tous ses enfants, quels qu'ils soient, quels que soient les clivages et quelles que soient les origines africaines. Ce projet est porté par le roi du Maroc. L'Académie du Maroc a pour ambition aujourd'hui de devenir la capitale africaine de la culture. Et les éditions Sambura, donc marocaines, ont publié la première anthologie, le premier collectif autour de ce thème-là et qui s'intitule « Qu'est-ce que l'Afrique ?» qui a été lancé à Rabat officiellement à l'automne 2021 et auquel j'ai pu participer, ainsi qu'une cinquantaine d'auteurs venus de tous les horizons et même de la région des Grands Lacs. C'est un projet ambitieux, mais le souffle y est. Et je pense qu'il restera, puisque la première pierre a été posée. Et si toutes les personnes, je n'aime pas trop le mot intellectuel, mais si toutes les personnes qui ont un lien avec la culture africaine et l'histoire africaine se donnaient la main, je pense qu'on pourrait faire de belles choses.
Moi, je pense qu'on va devoir en reparler de cette anthologie.
Oui, oh là là, oui, on va s'arrêter là.
Donc là, vous annoncez un premier volume, ça veut dire qu'il va y avoir...
Un deuxième volume est en cours.
D'accord.
Tout à fait.
D'accord. Le sommet Afrique-France qui a lieu à Montpellier, ça vous a ému, agacé
Si je veux être honnête, j'ai toujours fait en sorte d'être honnête, il m'a semblé retrouver... ce que mon père africain détestait, c'était une France-Afrique améliorée, mais pas vraiment un sommet africain, véritablement africain. C'est ce qui m'a choquée. J'attendais plus, je rêvais de plus, et malheureusement, c'est fou comme on revient toujours à cette France-Afrique qu'on tente de mettre à plat, qu'on tente de détruire, et puis elle émerge. Le projet porté par la ville de Montpellier est très noble, très beau, il est à saluer, mais je crois qu'il y avait d'autres perspectives qu'il aurait fallu creuser, peut-être s'éloigner un peu des politiques justement, et donner la part belle à l'économie, aux échanges, aux projets concrets qui peuvent être développés, les projets d'échanges culturels au niveau des universités, les projets de recherche, et loin de la politique. On est retombé dans le piège de la politique, et personnellement, je n'en vois pas l'utilité.
Alors Mona, quand même, si je peux m'exprimer... Apparemment, bon là j'ai assisté récemment à c'est un groupe qui a été créé à la suite de ça, mais qui justement se dit bien un groupe qui va travailler vraiment, pas du tout dans ce sens qui était quand même à mon avis une transition. C'est ce qui est annoncé en tout cas, notamment avec les entrepreneurs qui font partie déjà de la liste. Il y aura aussi un pôle culturel bien sûr. Et je dois dire que quand même si on fait le bilan auprès des Africains, bon, c'est de ça dont je parle, il y a quand même eu énormément d'associations africaines qui se sont produites et qui ont vraiment pu s'exprimer et qui en sont déjà très heureuses. Et le groupe qui est en train de prendre naissance auprès de la ville de Montpellier, qui va être spécifique, il va y avoir une personne désignée spécifiquement pour parler justement des échanges avec l'Afrique, et notamment entre jeunes, entre chercheurs, entre scientifiques, entre entrepreneurs, etc. Ils ont déjà plusieurs entrepreneurs super pointus qui sont déjà rentrés dans le groupe. Il y aura une espèce de biennale, je crois que la prochaine c'est en 2023, et apparemment ça va tourner vraiment dans le sens que vous dites et que moi-même je désirais aussi.
Je ne peux que saluer un tel projet.
Tout à fait.
Je suis quelqu'un de très pratique sur le terrain. Je n'aime pas trop les discours pour la forme.
Là, ce n'était pas un discours, c'était un atelier. Hein, avec beaucoup d'Africains qui étaient là.
Ce que vous annoncez me réjouit.
Et justement, le monsieur qui animait ça, le jeune homme qui animait ça, avec beaucoup d'humour, a fait bien entendre qu'il y aurait quand même beaucoup d'entorses à ce qui avait été fait précédemment, qu'il ne comptait pas du tout procéder de la même façon. Il a dit à plusieurs reprises, et avec beaucoup d'humour et beaucoup de finesse, mais ça a été dit et je l'ai entendu.
Tant mieux. Je ne peux que m'en réjouir.
Nous suivons cela de très près, grâce à Marie-Claude, à FM+, qui va être toutes les réunions pour bien orienter cette affaire et nous intégrer dans cette dynamique-là.
Très bien, c'est un beau projet.
Voilà. Alors, Bona Azam, nous l'avons dit, vous êtes professeur, mais vous avez aussi déjà beaucoup écrit. Hein. J'ai noté, grâce à notre bibliothèque internationale Google, j'ai noté que vous avez d'abord fait un premier essai, parce que vous êtes spécialiste de Dante.
Et de Nerval.
De Nerval. Alors, je donne les titres aux auditeurs, auditrices. Nerval dans le sillage de Dante, de la Vita Nueva à Aurelia, une trilogie des fables de La Fontaine, il y en a plein d'autres encore, attendez, j'ai mis ça ailleurs. Sur l'oreiller de sable aux éditions L'Harmattan.
Un roman, oui, premier roman.
Premier roman. Dans le silence des mots chuchotés aux éditions La Trace, qui est l'éditeur qui a publié Amine, dont nous parlerons la semaine prochaine. Nous nous sommes tant aimés, le sablier des mots, Ulysse a dit. Le petit dernier, c'est donc Nomade aux éditions Vibration. Je pense que vous allez aussi en parler, il est paru le 1er mars 2022. Alors voilà, la littérature, la poésie, la philosophie, hein, parce que si on parle de Dante, on parle aussi quand même un peu philo et puis peut-être d'autres choses. Quelle place ça a dans votre vie, cet aspect-là ?
Psychologiquement, c'est mon mode de survie. C'est l'écriture pour moi a toujours été présente. J'écris depuis, je crois, l'âge de 7-8 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un premier manuscrit d'un roman que j'avais écrit, mais j'étais morte de rire. Mais je me suis dit, mais c'est pas mal. Déjà, tu avais la notion du récit, même si le contenu était exceptionnel. Mais c'est déjà une trace, je dirais. J'ai toujours écrit essentiellement de la poésie. Je suis venue à l'écriture par la poésie d'abord. L'Afrique est présente dans mes poèmes. Beyrouth aussi, parce que c'est une étape dans ma vie qui m'a marquée. Cette rencontre avec le Liban fait partie des moments forts de ma vie. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. J'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'écris dans ma tête. Quand je suis au volant, j'écris aussi. Les idées viennent. En fait, le roman se construit d'abord dans ma tête. Et tout est visuel. Il prend son temps, il arrive à maturité. Et quand l'urgence se présente, là, je peux m'enfermer. Enfin, je ne m'enferme pas puisque j'écris face à la mer, mais je peux y passer des semaines et des semaines et des semaines et des mois sans plus arrêter, quoi. J'ai cette aisance avec les mots, j'aime les mots, je respecte les mots, je respecte cette langue que j'adore. Et je peux aussi travailler sur deux romans à la fois, trois romans à la fois. J'ai pas de soucis, je ne connais pas l'angoisse de la page blanche. Pas encore, ça viendra peut-être, ce sera triste, mais j'ai besoin de ça pour avancer. Et pendant le confinement, justement, j'ai été incapable d'écrire. Je n'ai plus été capable d'écrire, j'écrivais des poèmes, mais je n'avançais pas sur mes romans, je ne lisais plus, je relisais des textes, j'ai relu tout Camus. Ça m'a permis de passer cette épreuve très difficile. Je ne supporte pas d'être dans une salle enfermée depuis trop longtemps. Je n'arrive pas. Et j'ai compris qu'en fait, pour écrire, il me fallait le bruit du monde. Et que sans le bruit du monde, mes écrits étaient vides, quoi.
Eh bien, on va continuer la semaine prochaine.
Oh oui, parce qu'on ne va pas se séparer comme ça.
Nous allons justement nous séparer avec France Gall. Un commentaire sur le choix de musical. France Gall, si le désert avançait ou quand le désert
quand
avance.
Quand le désert avance.
Quand le désert avance.
France Gall est sénégalaise.
Oh, c'est une africaine.
De cœur, tout à fait. J'ai eu la chance de visiter sa case, comme elle disait, au Sénégal. Et c'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'elle-même et de son temps aux enfants de Dakar.
Tout à fait.
Et c'est une personnalité que je respecte beaucoup et dont j'adore les textes. Hein. Et puis, il y a Michel Berger aussi. Donc,
qui lui avait écrit quand même une des Graisses Blondes.
Oui,
et puis Babacar.
Hein,
Babacar.
Voilà, c'est une Africaine. Et étant donné que Nomade, c'est le désert, donc et le désert avance.
Allez, Mona Azam, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et merci à notre technique.
À la semaine prochaine.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout arrêtent danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois. Dis-leur quelle est leur chance et qu'ils ne la voient pas. Et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi. Que le désert avance et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.